Bien, bonjour à tous. En ce jour qui aurait dû être une journée d'assemblée générale, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un texte d'Éphésiens 4. Donc, on va faire une lecture tout d'abord dans Éphésiens 4 à partir du premier verset. Et voici ce que Paul écrit à cette église. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Jusque-là, donc la parole de Dieu pour nous ce matin. Devant ce texte, on peut se demander, est-ce qu'il est normal qu'il y ait des différences d'opinion entre chrétiens sincères? On pourrait retourner la question, pour former une église locale digne de ce nom, faut-il rassembler un groupe de chrétiens d'accord sur tout? Si je suis honnête, je me demande si j'ai déjà rencontré deux chrétiens qui étaient vraiment d'accord sur tout. Malgré le fait que nous nous appuyons tous sur les mêmes écritures, que nous voulons que nos convictions soient conformes à la parole de Dieu, chacun de nous a ses thèmes préférés. Certains diraient nos dadas. Chacun de nous a aussi ses angles morts, les choses qu'on a plus de difficultés à recevoir et à intégrer. Donc il est intéressant de regarder comment le Nouveau Testament présente les différences qui existent entre chrétiens sincères. Qu'est-ce que cette unité de l'esprit dont il est question dans Éphésiens 4 ? Autrement dit, comment le Seigneur regarde-t-il nos différences d'opinion ou nos différences de point de vue? Alors, je pense que le principe essentiel est clair hein, dans ce texte. L'unité est un don de Dieu au départ. L'unité est un don de Dieu. Nous l'avons lu. Efforcez-vous de conserver, je souligne conserver, l'unité que donne l'Esprit. On peut triturer cette phrase de Paul dans tous les sens, on ne lui fera pas dire que nous devons inventer l'unité ou créer l'unité. Nous avons à recevoir ce don de Dieu et c'est le point de départ, je pense, pour toute réflexion sur ce sujet. Cette unité est un don. Paul nous exhorte à conserver ce que Dieu nous donne, précieusement. Quand le Seigneur a créé l'Église, et ça on peut remonter tout au début, hein, en relisant les évangiles, les actes, le Seigneur a uni dans un même corps des personnes très différentes. En effet, qu'avaient en commun des hommes comme Pierre et Paul, hein, quand on pense à ces deux personnes, Pierre, le manuel, le bagarreur, l'homme d'action, hein, le Galiléen, le costaud, il s'est retrouvé frère de Paul, le penseur, hein, l'intellectuel, le diplômé en théologie de l'université de Jérusalem. Hein. Alors, unis, Pierre et Paul, mais oui, unis par l'Esprit de Christ dans une même mission. Et je trouve que dans le Nouveau Testament, la notion d'unité, même si le mot n'est pas utilisé souvent, la notion d'unité tourne souvent autour de cette mission commune qui est la nôtre, faire connaître le Sauveur. Et cette unité de mission me semble essentielle et c'est ce qui sert de ciment finalement entre nous, malgré les petites différences que nous pouvons connaître. Alors, aujourd'hui encore, on peut dire que dans chaque église locale, on a des personnes très diverses, hein, qui n'abordent pas tous la vie de la même façon, qui n'ont pas la même éducation, qui ont connu des parcours très variés, qui subissent des influences diverses aussi. Des personnes qui ont des opinions différentes sur des points plus difficiles des Écritures, sur l'interprétation des 70 semaines de la vision de Daniel, sur la question charismatique, sur le rôle de la femme dans l'Église, sur mille et une choses finalement. C'est la réalité de l'Église de Jésus-Christ, partout et depuis le début. Alors, je pense qu'il y a une tentation quelque part. Hein, c'est l'ennemi qui parfois insinue que nous ne serons vraiment unis que lorsque nous serons entièrement d'accord sur tous les points, y compris ce qui est secondaire. Et je pense que la parole de Dieu s'inscrit en faux contre ce mensonge. L'unité de l'esprit est une unité donnée par l'esprit. Un don de Dieu qui fait partie de notre héritage en Christ. Donc, nous n'avons pas à chercher à la créer, mais nous n'avons pas à chercher à la gagner, ou la mériter, nous avons à la recevoir, à la reconnaître et à la conserver. L'unité de l'esprit est là dans les réalités énumérées au verset 4 à 6 que nous avons lu, mais que je vous relis. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. C'est un beau résumé de ce qui nous unit. Et lorsque nous parlons d'unité, nous devons toujours commencer par recevoir ce don, par remercier le Seigneur pour l'unité de l'Esprit et par nous en réjouir. Et c'est ce à quoi j'invite chacun ce matin. Réjouissons-nous de cette unité que Dieu nous donne. Pour aller plus loin sur ce thème, il y a quelques autres passages que j'aimerais évoquer, en particulier pour souligner que l'unité biblique n'exige pas l'uniformité. Là, je pense à ce chapitre 14 de l'Épître aux Romains, que vous pouvez lire si vous avez un moment. C'est un chapitre très instructif, et un texte où l'apôtre Paul parle des différences qui existe entre chrétiens sur des questions secondaires. Et quand je relis ce texte, je me dis quand même, Paul, il avait sûrement sa propre opinion sur les questions qu'il évoque. Pourtant, il donne pas son opinion à lui. Je pense que certains chez les Romains auraient aimé que Paul dise, voilà, la ligne du parti, c'est ça. Ceux qui sont pas d'accord sont des hérétiques. Mais en fait, non, il présente les deux côtés de la chose, de chaque problème, puis il ajoute que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Alors, il y avait des chrétiens végétariens et des chrétiens mangeurs de viande, déjà à l'époque, ça continue aujourd'hui. Il y avait ceux qui faisaient une différence entre les jours, les gens qui aimaient observer les fêtes, et puis d'autres chrétiens à Rome pour lesquels tous les jours étaient égaux. Bon, ce que Paul dit au fond, c'est ne vous moquez pas des convictions de vos frères, même si vous ne les partagez pas, c'est pas ça qui est important. Chacun, et là je le cite de nouveau au verset 12 de ce chapitre, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il y a un domaine de responsabilité devant Dieu pour ces questions secondaires et nous devons assumer cette responsabilité. Donc, dans le domaine des questions secondaires, en tout cas pour l'apôtre Paul, l'uniformité n'était pas essentielle pour l'unité. Ils pouvaient être unis en Christ tout en ayant Les uns plutôt envie de manger des légumes et d'autres de manger aussi de la viande. Et je pense qu'il est toujours dangereux d'aller plus loin que la parole de Dieu. Il est dangereux d'exiger l'uniformité là où Dieu ne l'exige pas. On pourrait dire que la pensée unique est plutôt l'apanage des sectes, hein, et nous ne voulons pas les imiter. Hein. Donc, il y a ce qui est essentiel, mais il y a aussi bien des questions sur lesquelles nous pouvons discuter et échanger, et ça peut aussi nous aider à avancer. Mais je crois qu'il y a aussi un autre danger, c'est dans le fait que les êtres humains que nous sommes, se passionnent bien plus facilement pour des questions secondaires, pour imposer nos idées sur tel ou tel point qui n'a pas de rapport avec l'Évangile, que pour défendre l'essentiel. Hein. C'est dommage, ça ne cessera de m'étonner, mais c'est ainsi et je pense qu'il faut en tenir compte. Un exemple très récent, j'ai assisté dernièrement à une assemblée générale dans une église locale où tout s'est passé, on va dire, dans l'unanimité. On a approuvé les comptes, on a parlé des projets, des soutiens missionnaires. Tout le monde était d'accord sur tout, jusqu'au moment où quelqu'un a dit « Mais pourquoi on ne mettrait pas une grande croix en bois sur le mur du fond du local ?» Et alors là, la discussion est partie dans tous les sens. Les passions se sont éveillées. Mais voilà, finalement, qu'est-ce qui est plus important après, ça s'est calmé et il y aura une rencontre pour parler calmement de la décoration du local. Mais voilà, c'est un exemple de ce qu'on vit souvent entre nous dans les églises. C'est la marque d'une foi adulte qu'on admet que pour ce qui n'est pas fondamental, son frère ou sa sœur ait pu arriver à des conclusions différentes des siennes. Et c'est la marque d'une foi adulte qu'on s'abstient de mettre en doute surtout la sincérité ou la fidélité de ceux qui ne pensent pas tout à fait comme nous. Alors vous me direz peut-être qu'il y a également des passages dans les épîtres qui ne laissent pas de place à une conviction personnelle, où l'erreur est dénoncée, où l'hérésie est combattue. Et ça, c'est vrai. Donc, je reviens à notre question de l'unité pour dire que conserver l'unité, c'est surtout défendre l'essentiel. Et là, je vous citerai ce que Paul écrit aux Galates. Hein. C'est très fort ce qu'il dit dans le premier chapitre de Galates, au verset 8. « Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonce un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » Paul défendait effectivement l'essentiel et avec toutes ses forces. Hein. Lorsqu'il sentait que la justification par la foi, seule, était mise en doute, eh bien là, Paul, il montait sur ses grands chevaux. Aux Philippiens, d'ailleurs, il parlera de ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Hein, Philippiens 3, 18. Ou alors aux Corinthiens, dans le chapitre 15 de 1 Épître aux Corinthiens, il dénonce ceux qui niaient la résurrection des morts. Donc, il y a ce qui est essentiel. Pour ce qui est essentiel, les fondements de la foi, c'est-à-dire la divinité de Jésus-Christ, le salut par grâce, le pardon des péchés, l'espérance des saints, nous devons être intraitables. Là, il n'est pas question de suggérer que chacun se fasse son idée, se fasse une opinion. Au contraire, là, nous sommes exhortés, c'est l'épître de Jude, qu'il dit à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et la marque d'une foi adulte est donc qu'on ne confond pas l'essentiel et le secondaire. Une autre chose intéressante dans Éphésiens 4, c'est que le fruit de l'esprit est donné pour conserver l'unité de l'esprit. Il y a un verset étonnant dans 1 Corinthiens 11 qui dit ceci: il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Alors, on est souvent surpris de lire qu'il faut qu'il y ait des controverses. Pourquoi? Mais Paul dit, afin que ceux qui sont authentiques soient manifestés. La controverse agit comme un révélateur. Si la controverse nous pousse à calomnier nos frères, à agir avec colère, à manifester un esprit amer, elle révèle quelque chose au sujet de l'authenticité de notre foi et de notre marche avec Dieu. Si au contraire la controverse est vécue comme une occasion de manifester et de développer le fruit de l'esprit, elle révélera l'authenticité de notre communion avec le Seigneur et les effets bienfaisants de sa présence et de son action. Et dans notre texte Éphésiens 4, vous pouvez relever 5 qualités qui sont le fruit de l'esprit. On trouve l'humilité, la douceur, la patience, l'amour et la paix. Alors c'est vrai qu'à partir de Galates 5, 22, on pourrait compléter avec aussi la bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi. Ce sont des qualités dont nous avons terriblement besoin quand il y a des différences d'opinion ou des controverses au sein de la communauté. Le fruit de l'esprit est donné pour conserver l'unité de l'esprit. Ça veut dire que nous dépendons du Seigneur, du début à la fin. C'est lui qui nous fait don de l'unité, puis c'est lui qui fait croître dans nos cœurs la capacité de conserver notre héritage. Je ne pense pas que le Seigneur nous demande de taire nos différences, parce que c'est dans l'échange et le partage que nous pouvons apprendre les uns des autres et avancer ensemble. Mais nous devons apprendre à faire taire notre vieil homme, ce vieux bagarreur qui sommeille en chacun de nous, et nous sommes encouragés à laisser plutôt s'exprimer l'Esprit de grâce qui habite nos cœurs régénérés. L'Esprit est aussi le premier des dons de Dieu. L'unité de l'Esprit est donc notre héritage, mais l'unité de la foi est notre but. Le mot unité n'est utilisé que 2 fois dans la Bible. Et les 2 fois sont dans Éphésiens 4. Dans un verset que nous n'avons pas encore lu, c'est le verset 13 de ce chapitre, il est question aussi d'unité, mais d'une unité qui n'est pas encore acquise, qu'il faut viser. Donc je vous lis ce verset 13 d'Éphésiens 4. « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. » Donc il y a là un mouvement, il y a quelque chose qui est encore devant nous, quelque chose que nous visons, vers lequel nous avançons, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le but que Dieu nous donne. Donc nous ne devons jamais nous satisfaire de notre compréhension imparfaite, de notre connaissance partielle des choses. Nous sommes appelés à avancer. Ensemble, encore, apprendre, corriger nos premières impressions, considérer toutes choses, retenir ce qui est bon. Je me souviens d'une discussion sur le pas de la porte avec le représentant d'une secte. Vous pensez tout de suite, bien sûr, aux témoins de Jéhovah, et vous aurez raison. Et au bout d'un moment, exaspéré, donc cette personne a fini par me lancer. Alors, si je comprends bien, vous, vous possédez la vérité. Alors j'ai hésité avant de répondre et je crois que c'est l'esprit qui m'a soufflé cette réponse. J'ai fini par lui dire non, monsieur, je ne possède pas la vérité. C'est elle qui me possède et que ce soit de plus en plus. Parce que nous sommes disciples de celui qui pouvait dire je suis la vérité. Nous ne possédons pas la vérité. Nous n'avons en fin de compte que chacun une approche de cette vérité et nous devons continuer dans la recherche de cette vérité. Mais la vérité nous a saisis. C'est ça que nous pouvons mettre en avant dans notre témoignage. En la personne du Fils de Dieu, la vérité nous a saisis. Et donc, c'est Jésus qui est le socle de notre unité. Et l'Esprit de Jésus travaille pour approfondir notre appréciation de sa vérité. Je vous rappelle la promesse, Jean 16, 13, « Il vous conduira dans la vérité tout entière. » Mais qui peut dire qu'il a déjà saisi toute la vérité? Non, ben non, on a encore un long chemin à parcourir ensemble pour recevoir de plus en plus ce que Dieu veut nous révéler. Donc en faisant de l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu notre but, nous conserverons l'unité que donne l'Esprit. Et je crois, sincèrement, c'est ainsi que nous aurons un témoignage dans ce monde. Je vous rappelle, en conclusion, une vieille formule, mais vous l'avez déjà peut-être entendue, mais qui a quand même encore tout son sens. Pour ce qui est l'essentiel, unité. Pour ce qui est secondaire, liberté. En tout, charité. Que le Seigneur nous aide donc à recevoir cette unité, à vivre dans cette liberté et à pratiquer cette charité, cet amour qui est la base de notre vie ensemble dans l'Église de Jésus-Christ. On peut terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin. Merci pour ce don extraordinaire que nous avons reçu en Jésus-Christ. Cette unité, parce que nous avons un même Sauveur, un même Dieu et Père, que nous avons une même espérance, une même foi. Ce sont des choses fortes, des choses qui réjouissent nos cœurs quand nous nous arrêtons pour y penser. Merci de nous avoir donné une base si sûr, si stable pour cette unité que tu veux nous voir vivre. Et donne-nous aussi cette charité qui nous permet d'entendre nos frères et sœurs, de pouvoir échanger les uns avec les autres sur ce qui n'est pas le cœur de la foi, ce qui n'est pas essentiel, sur toutes ces questions qui parfois nous agitent. Seigneur, merci parce que tu veux aussi que nous puissions apprendre les uns des autres, que nous puissions échanger ce que nous avons compris et ainsi arriver à avancer ensemble. Merci aussi encore en ce jour de nous donner cette paix dont nous avons besoin dans des temps troublés. Et nous regardons à toi, Seigneur, pour vivre une paix qui sera aussi un témoignage pour nos voisins, pour nos collègues, pour ceux que nous côtoyons. C'est-à-dire que tu puisses briller à travers nous par notre confiance, même dans des temps où chacun peut être dans la peur, dans la crainte de cette maladie qui circule. Merci, Seigneur, que nos vies sont entre tes mains et que nous avons un si grand Dieu. Un si grand Sauveur. Merci. En son nom. Amen. Amen.